CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va revenir sur les factures d'énergie.
Oui, lors d'une émission précédente, j'ai présenté une partie du bilan du CCAS et témoigné de la difficulté croissante pour un bon nombre de personnes de faire face aux factures d'énergie. On va voir pourquoi.
Clément Chassin va nous présenter ensuite les navets.
Mal aimé, un légume mal aimé.
Ah ouais, tu m'as cueilli là en fait.
Sera suivi de Jean Barbard qui va parler cette fois-ci de publicité frauduleuse.
Exactement, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'un business florissant, d'un or noir du numérique qui sent bon l'huile de vidange.
Et enfin on finira l'émission avec une invitée, Pauline Santiago, qui va nous parler de sa rencontre avec Badinter.
Oui, j'ai rencontré Badinter, donc je vais vous raconter les circonstances.
Du quotidien avec Monique Couteau.
Oui, alors le problème des factures d'énergie, c'est pas seulement un problème local, puisque c'est une situation qu'on retrouve au plan national. On sait maintenant que c'est le cas de 30% de la population française qui a du mal à payer ses factures d'énergie. Donc ces problèmes se sont répercutés au CCAS dans le cadre du fonds d'aide chavillois, où on a souvent été obligé de compléter ces aides, en plus d'une mobilisation accrue du FSL départemental.
Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs auditrices FSL ?
Eh bien, c'est le Fonds de solidarité logement. Il a été créé par la loi du 31 mai 1990. L'action du FSL s'inscrit dans le cadre partenarial des politiques de prévention des expulsions et de lutte contre le surendettement. Le FSL est basé sur le quotient familial. Il en existe trois sortes. Le FSL accès, pour la prise en charge du dépôt de garantie et ou de l'achat d'électroménager de première nécessité. Ce FSL, il peut être instruit directement par l'usager lui-même en se rendant sur le site et en remplissant le papier. Le FSL maintien, pour la prise en charge de dettes locatives. Alors là, c'est instruit exclusivement par un professionnel, un travailleur social, du CCAS par exemple. Et le dernier, le FSL fluide, pour la prise en charge des dettes d'énergie, d'eau, de téléphonie. Et là aussi, c'est instruit par un professionnel. En 2023, 11 demandes de FSL fluide avaient été instruites. En 2024, on est passé à 29 demandes et la tendance à l'augmentation se confirme en 2025. Les demandes de FSL augmentent, mais elles ne suffisent pas à rendre compte de la crise, car ces montants d'aide sont plafonnés selon le quotient familial de la CAF et on ne peut en bénéficier que tous les 3 ans. Et souvent, l'accord du FSL ne suffit pas à solder la dette. C'est pourquoi le fonds d'aide chavillois prend souvent en charge des factures d'énergie. Et je rappelle que les dettes d'énergie représentent 33% des demandes d'aide du FAC.
Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment expliquer ce problème social et cette situation qui n'est pas un problème mineur après ?
Alors on va faire un petit peu d'histoire. Avant 1990, il y avait un système efficace pour contrôler le prix de ce bien fondamental qui avait été mis en place après la guerre de 39-45 conformément au programme du CNR, du Conseil National de la Résistance, qui avait créé EDF-GDF, Électricité de France, Gaz de France, né de la nationalisation d'un secteur alors détenu par une multitude d'acteurs privés. Si on se préoccupe plus particulièrement d'EDF, en tant que monopole public, il avait développé et unifié les réseaux, mené les grands programmes de production hydraulique, charbon, fioul, puis nucléaire. Et grâce à des investissements publics à long terme, ce qu'aucun acteur privé n'aurait pu faire. En 1990, le système électrique français est très performant. Qualité de service, équité de traitement des usagers sur tout le territoire, prix contrôlé et accessible. En 1996, une directive européenne impose la mise en concurrence de la production et de la fourniture d'électricité et de gaz. Ce sera décliné à partir de 1999 dans le droit français. Et en 2007, l'ensemble des usagers sont devenus des clients et peuvent choisir leur fournisseur de gaz et d'électricité. L'établissement public EDF-GDF est progressivement découpé en morceaux. Les réseaux restés hors du domaine domaines concurrentiels sont isolés dans des filiales ayant obligation de neutralité vis-à-vis des différents fournisseurs et producteurs.
Alors, quel était à la base l'objectif affiché de cette directive ?
Bien, l'objectif affiché de cette ouverture à la concurrence était une baisse des prix aux consommateurs. Sans surprise, en France comme ailleurs, le miracle n'a pas eu lieu. L'entrée des secteurs privés dans la production d'électricité s'est faite, comme pour les autoroutes, sous la forme de délégations de services publics. Le marché s'est mis en place à l'échelle européenne. C'est là que sont déterminés les prix de l'électricité. Et comme toutes les centrales les moins chères produisent déjà à plein régime, les seules qui puissent répondre à l'augmentation de la demande, ce sont souvent, sur le réseau européen, les centrales au gaz, dont le fonctionnement dépend pour l'essentiel du prix de son combustible. Le gaz, dont le cours est très volatile et incontrôlable. En France aujourd'hui, le prix du marché est déterminé par le gaz pour environ 75% du temps, alors que les centrales au gaz ne représentent en France qu'une très faible part de la production. Voilà ce qui est responsable de la flambée des prix. Les logiques de marché ont conduit à de graves dysfonctionnements, alors que pour lutter contre la crise climatique, l'électricité et sa production sont une clé d'avenir.
Merci Monique, c'est un débat ouvert. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour sortir de la crise climatique et sociale. On en parle dans une prochaine émission. En résumé, agir local et penser global et réciproquement semble bien adapté pour cette question. On passe tout de suite le micro à Clément Chassin. À table avec Clément Chassin.
Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous faire une chronique culture sur un film insipide, un AV. Voilà, c'était la blague du jour.
Je voulais la faire.
Voilà, donc je vais parler du légume, effectivement, le grand classique de l'hiver. Alors c'est vachement bien le navet, je vais essayer de défendre le navet. Déjà c'est bien parce que ça s'adapte au sol peu fertile. Donc c'est pratique, puis c'est parfaitement adapté à nos climats, dans nos régions. On en trouve des traces dans les écrits des auteurs latins, ils parlent déjà du navet et tout ça. Donc c'est quelque chose qui pousse chez nous depuis toujours et qui s'adapte à tous les changements et au sol, donc c'est formidable. Il en existe des dizaines de variétés. Alors vous en avez des longs, des ronds, des coniques, des blancs, des jaunes, des
rayés,
roses, des blancs.
Des rosés blancs.
Des rosés blancs, voilà. Là, j'en ai ramené un joli rosé blanc.
Ah, ouais,
voilà, enfin bon, voilà. Des couleurs, des formes, des goûts différents aussi. Parce que ça a du goût, le navet. Et non, ce n'est pas que insipide, malgré l'imaginaire collectif. Donc non seulement ça s'adapte bien à tous les sols, notamment au sol un peu pauvre, mais en plus, ce qui est bien avec le navet, c'est qu'on ne jette rien. Donc, ça peut être utilisé. Alors, ça a été utilisé depuis très longtemps comme plante fourragère.
Ouais,
c'est vrai. Oui, c'est pas que pour nous. Mmh. Voilà, et pour l'alimentation humaine, alors, on peut le faire cuit, sauté, gratiné, en purée, en soupe, dans un pot-au-feu cru. Ça va dans tout. C'est formidable, c'est génial. Selon les variétés, ça convient aux différentes recettes, effectivement, adapter les différents goûts, tout ça.
Parce qu'il y a des navets qui sont très forts.
Il y a des navets très forts, il y en a des plus doux, il y a vraiment des goûts différents. Ouais. Oui, c'est. Il faut apprendre à les connaître. Finalement, c'est un légume qui est mal connu.
Il y a combien de variétés, tu l'as peut-être déjà dit ?
Des dizaines.
Des dizaines.
Ah, ouais, non, c'est. Je ne sais plus exactement, c'est vraiment énorme. Voilà, donc qu'est-ce que je disais ? Oui, bah, on peut donc le manger, enfin on peut le manger. Les animaux peuvent le manger comme plante fourragère, nous on peut le manger hors de 50 façons différentes. Faut pas oublier qu'on peut manger les feuilles aussi, et oui.
Ah.
Eh oui, oui.
Alors, comment on les mange ?
Alors, c'est comme des épinards. Alors, j'avoue, c'est quand même un peu plus amer et un peu plus fort que les épinards, voilà. Mais sinon, en soupe, dans une soupe.
C'est pas un petit peu poilu, les feuilles de navet ?
Non. De toute façon, quand tu les fais cuire,
ouais, tu sens plus rien.
Le poilu, il disparaît.
Tu les rases avant.
Donc voilà, non, mais tu les mets en soupe avec une pomme de terre, une carotte, voilà. Tu mixes le tout, ni vu ni connu, c'est très bon. Donc voilà, donc le navet, c'est génial parce que ça pousse très bien. C'est un truc qui est qui pousse dans nos contrées depuis des siècles, voire des millénaires. On peut en faire plein de choses. Voilà, je vais quand même terminer avec une recette, hein, c'est ma spécialité. Ah. Voilà. Et puis alors, je me suis dit, allez, je vais faire ultra simple. Et donc, voilà, donc je vous propose une petite entrée. En entrée.
Ah, on déguste.
Si tu veux, tu peux déguster, j'en ai ramené. Et alors, le navet cru, du coup.
Mm-hmm. On peut manger, hein.
Ah oui, oui, ça, tu peux y aller.
Il est très doux, celui-là.
On peut même faire de l'ASMR.
Il est doux, celui-là.
C'est croquant.
Ah, mais oui.
Il est très doux, celui-là, effectivement.
Ouais.
Alors, c'est un petit côté, on dirait un peu du radis.
Mais
oui,
exactement.
Oui, tout à fait. C'est
donc,
proche.
Celui-là, alors ça, c'est un navet, c'est les petits navets...
Radis noir,
c'est les petits navets rosé blanc. Voilà, ça passe très bien cru.
Ils sont sucrés, en plus.
Donc, on peut
ils
le faire...
Ouais, on peut s'en servir aussi avec de l'houmous ou avec, tu sais,
voilà, c'est ça. En tranche, tu peux tartiner des trucs par-dessus. Sinon, une bonne façon de le faire, cru, râpé.
Ouais.
Et tu râpes une pomme avec.
Ah oui, très bon ça.
Et alors là, ça passe. Voilà. Et ça te fait une petite entrée. C'est prêt en 2 minutes. Ça te fait une entrée, une petite crudité. L'hiver, c'est toujours agréable. Ça passe tout seul. Vraiment. Alors en plus, un des avantages du navet, c'est que c'est très peu calorique.
Ah oui, ça.
Donc là, navet cru râpé avec une pomme râpée, c'est prêt en 5 minutes. Tu mets juste un petit trait de vinaigre de cidre par-dessus. Pas la peine de le napper d'huile ou quoi. Voilà, ça te fait une entrée, c'est très sain, c'est très bien. C'est tout simple. Il faut redécouvrir le navet.
Merci beaucoup, Clément. On passe tout de suite à la chronique de Jean Barbare. Jingle. De tout et de rien avec Jean Barbare.
Mesdames, messieurs, let's go. Oubliez les hackers dans une cave avec un sweat à capuche. Les plus grands fraudeurs du net ont des badges, des actions au Nasdaq et se promènent en crocs dans la Silicon Valley. Et ceux-là, dans leur chemisette à fleurs, ont le bon goût de tirer 10% de leurs revenus en laissant passer les arnaques. Alors, de quoi on parle? Vous savez ces pubs magiques qui vous promettent des aides de l'État gratuites ou des bitcoins à 1 euro? Eh bien, derrière ces vidéos, un empire économique se cache, celui de la fraude publicitaire. D'après Reuters, Meta, le propriétaire de Facebook et Instagram, tire 10% de ses revenus 2024 de publicités liées à des escroqueries ou à des produits interdits. Alors, à votre avis, 10% de beaucoup, ça fait combien? Jonathan de nuit.
10% de beaucoup, ouais. Allez, je dirais, je vais mettre une fourchette très large.
10%
ça
pour... des revenus de Meta.
Non, je suis incapable incapable
ouais.
De
non,
donner
vous
une
pas...
idée.
Pas
4 millions.
Ouais. C'est en milliards.
C'est en milliards. Déjà. C'est... Bon, allez, un milliard et demi.
1,5 milliard, Clément.
2 milliards.
Pauline, une idée?
2 milliards.
2 milliards.
Copieuse.
Eh bien, c'est pas la baguette de Giscard, là. On parle de 15 milliards de dollars pour fermer les yeux sur la pub crapuleuse. Oui, c'est Monique qui était la plus proche.
Ça dit combien, Monique?
10 milliards.
Ouais, bon, dit au pif. Okay.
Donc 15 milliards pour fermer les yeux sur la pub crapuleuse. 15 milliards sur le dos des naïfs, des distraits et parfois des désespérés. Pendant que Meta encaisse, les victimes, elles, se font littéralement plumer à coups de deepfake. On pense à la pauvre dame qui s'est laissée séduire par le deepfake de Brad Pitt.
Ah oui, Brad Pitt.
Mais ne riez pas trop vite, parce que selon la Global Anti-Scam Alliance, les pertes mondiales dues aux arnaques atteignent 442 milliards de dollars par an. Certaines sources parlent même d'un billion de dollars, mais 1000 milliards de mille sabords. Et tout ça pourquoi? Pour aider les pays les plus touchés à s'adapter au changement climatique? Et non, pour nourrir un modèle économique où l'attention compte plus que la vérité. Chaque clic, même frauduleux, rapporte de l'argent au supermarché du cerveau. Bon, pas de jaloux, les plateformes concurrentes, même refrain, même fausse note. TikTok affiche 74% de clics frauduleux, Twitter/X 61% et Facebook 57%. Alors un clic frauduleux, c'est un robot qui trompe l'algorithme pour dire ce qui est bon à voir. Et pour aller un peu plus loin dans la farce, Meta s'est retiré des audits indépendants du Media Rating Council après 4 mois seulement, officiellement pour se concentrer sur d'autres contrôles. Les régulateurs, eux, se réveillent à peine. La FTC enquête et l'Europe brandit son Digital Service Act avec des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Mais quand une entreprise gagne 15 milliards grâce à la fraude, payer une sanction, c'est juste le prix de la tranquillité. Alors maintenant, entre nous, et qu'on peut se confier, qui s'est déjà fait avoir par un article du Gorafi?
Clément Chassin. Balance. Alors du Gorafi, non. Du Gorafi, non. En général, parce que ça se voit pas de suite. Moi, quand je vois un article comme ça, évidemment, on regarde pas tout de suite. Je crois que c'est pas forcément sur l'image, mais c'est le pseudo de la publication où il y a écrit le Gorafi, je crois. Et donc, non, en général, je me dis, attends, c'est pas possible. Et pouf, je regarde après. Bon, le Gorafi, je suis rassuré, quoi. Mais il se passe des choses tellement improbables en ce moment politiquement que parfois je pense qu'on peut facilement s'imaginer que c'est Gorafi et pas du tout.
Oui, c'est vrai.
Et c'est Figaro.
Jamais. Je me suis jamais fait avoir.
Je suis très méfiante.
Et sur les pubs frauduleuses alors, parce que ça c'est encore qui autre chose.
Déjà, qui s'est déjà fait arnaquer.
S'est fait arnaquer.
Par une pub frauduleuse.
Allez, dites-le.
Moi ça m'est déjà arrivé de cliquer pour vérifier et après de me rendre compte que c'était invraisemblable, mais ça m'est déjà arrivé de cliquer et d'aller voir ce qui se passait derrière.
C'est de mieux en mieux fait. C'est un peu comme la. Alors c'est pas forcément frauduleux, mais c'est les appels téléphoniques de publicité aujourd'hui qui sont. C'était hier. Là, hier. Bon, il y a un moment donné où on sent que c'est fake. C'est les voix intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a plus personne, il y a plus aucun humain derrière le téléphone. À la limite, on peut se dire c'est pas plus mal parce que franchement, vu le métier, pourquoi pas. Enfin, le métier de faire chier les gens comme ça, c'est. C'est pas terrible. Et hier, je suis tombé sur une femme, donc une pseudo-femme qui m'appelle, qui me fait. Mais vraiment, qui articule en plus très bien, ça parle très bien. C'est bonjour monsieur Denuit, vous allez bien? Alors, moi, évidemment, oui. Mais j'entends au son de la voix, je sais déjà que quand on me présente bonjour monsieur Denuit, etc., c'est une pub. Donc déjà, il y a des oui, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ça continue. Alors voilà, avec une espèce d'intonation comme ça, où on se dit, c'est humain. Sauf qu'en fait, c'est un peu décalé. L'intonation devient un peu décalée par rapport à ce que je viens de dire. Donc c'est là que je me dis ok, c'est bon, c'est fake.
C'est une arnaque.
Mais après, est-ce que c'est une arnaque? Je sais pas.
Après, aujourd'hui, maintenant, il faut quelque chose d'encore pire, c'est qu'ils peuvent utiliser les téléphones, les numéros de téléphone de n'importe qui. Ouais. Et en fait, ils font rerouter le téléphone de telle sorte à ce que son propre numéro de téléphone serve à appeler quelqu'un d'autre.
Ah ouais, d'accord.
Ça. Alors, je sais plus si c'est le goofing ou le woofing, mais je crois que c'est.
Non, c'est pas le woofing, parce que le woofing, c'est autre chose.
Alors, il y a effectivement le fait d'aller dans les fermes qui s'appelle.
Ça.
Mais il y a un mot technique qui est proche en sonorité. Et là, dans ce cas-là, et moi, ça m'a arrivé, on reçoit plein de personnes qui nous appellent et qui nous disent ouais vous m'avez appelé, j'ai reçu un appel en absence de votre part, etc.
Moi,
et c'est 20-30 personnes en une journée qui peuvent rappeler comme le numéro de téléphone est
pris.
Et quand ça arrive, si on décrit ce qui est arrivé, il y a une plateforme pour déclarer qu'on a eu ce problème là.
Et ça marche pas finalement ce site de l'État qui permet de qui remplace, qui se substitue au comment on appelle ça déjà,
la liste rouge.
Voilà, la liste rouge. Moi je me suis inscrit dessus, je me rappelle plus comment
Bloctel.
Ça s'appelle. Alors, il faut
Bloctel.
Le dire au
Bloctel. Mais ça marche pas.
Voilà, c'est ça, ça marche pas,
ça marche
du tout. Je me suis inscrit, bon évidemment c'est gratuit et en fait ça n'a rien changé, je reçois toujours autant.
Mal.
Peut-être un peu moins, mais en tout cas je reçois toujours autant de spam.
Ça marche. Ce qui est, c'est qu'on en reçoit tellement.
Oui.
Oui, exactement.
Ce qui est, c'est qu'on en reçoit tellement, on a l'impression que ça marche pas parce qu'on continue à en recevoir. En fait, moi, j'ai remarqué quand même, quand je m'y suis inscrit, on en reçoit moins. Et alors, souci de Bloctel, c'est qu'effectivement, il faut signaler à chaque fois qu'on reçoit des appels.
Si on faisait ça à chaque
fois. Il faut signaler, j'ai été appelé par tel truc qui est un truc frauduleux, et voilà. Un peu fastidieux, mais ça fonctionne. Après, effectivement, les arnaqueurs s'adaptent tellement vite que Bloctel court derrière.
Ouais. Exactement. Très bien, merci beaucoup Jean Barbare pour cette chronique. On passe maintenant à la dernière chronique. À portée de parole, on reçoit aujourd'hui, grâce à Monique Couteau, Pauline Santiago, qui va nous parler de sa rencontre avec un certain Badinter. À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
J'ai eu le privilège de rencontrer Robert Badinter dans mes fonctions de maire adjoint aux affaires culturelles de Chaville. C'est à l'occasion de la programmation de la pièce qu'il avait écrite en décembre 1975 qui relatait l'emprisonnement d'Oscar Wilde et son procès, puis son départ en exil à Paris où il mourut 3 ans après. Après la représentation, il était de coutume de faire une fin de soirée avec les acteurs, toute l'équipe du théâtre de la Colline et bien sûr l'auteur de la pièce. J'ai ainsi échangé avec Robert Badinter, très chaleureux et disponible. Il est vrai que quelque temps avant, avec Jean Levin, maire de Chaville, nous avions fait la campagne des législatives dans les Hauts-de-Seine de M. Badinter. C'était une personne très simple et très chaleureuse à la fois, mais avec beaucoup de classe, qui m'a permis de l'appeler par son prénom, et il en a fait de même pour moi. Tout cela se passait avec la présence d'Hervé Meudic, directeur de l'Atrium. Je n'oublierai jamais cette soirée et son exemplaire plaidoirie sur l'abolition de la peine de mort et la suppression des poursuites de l'homosexualité. Je garde toujours la photo de cet homme véritable. Il est dans mon panthéon à moi. L'hommage qui lui a été rendu à l'occasion de son entrée au Panthéon fut inoubliable et bien mérité. Je veux simplement encore rappeler un peu le parcours de ce grand avocat. Enfant, pendant la guerre en France, sa famille fut poursuivie par les nazis. Son père a été déporté à Auschwitz sur ordre signé par Klaus Barbie. Malheureusement, il mourut en camp de concentration. L'avocat était très marqué par cet événement. Quelques années plus tard, il a fait un voyage dans les anciens camps de concentration pour se recueillir et dans ce désert, il a vu des petites fleurs sortir de terre et c'est ainsi qu'il a dit qu'il ne fallait jamais perdre l'espoir.
Très bien, Pauline, merci beaucoup.
Merci Pauline Santiago pour avoir relaté ce petit passage de vie personnelle. Déjà 3 ans d'émission de Radio VCE, notre équipe souhaite poser 3 questions à nos auditeurs et nos auditrices afin d'améliorer notre contenu. Vous pouvez répondre évidemment par mail à vivonschavilleensemble@outlook.fr. Première question, depuis quand écoutez-vous Radio VCE? Sur quelle plateforme de podcast? Deuxième question, le faites-vous régulièrement ou selon des sujets abordés? Et troisième question, qu'attendez-vous de notre radio locale? Merci de nous avoir écoutés une nouvelle fois. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.
On peut juste rajouter que les critiques et propositions sont les bienvenues.